1,
9h-11h,
Wendy Bouchard. Bienvenue sur Europe 1, ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine de découverte et d'éclairage sur l'actualité. Bonjour Julie.
Bonjour Wendy.
Et c'est un tour de la question d'abord préoccupant que je vous propose en premier thème de ce lundi 18 mars. Après la grande mobilisation des Français pour le climat, nous en parlions vendredi, comment expliquer en 2019 des risques massifs et persistants de pollution des océans, en partie par des marées noires, avec un navire qui sombre tous les trois jours dans les mers du globe. Après le naufrage du Grande America, les côtes atlantiques sont toujours en alerte de Belle-Île à La Rochelle. Quel impact attendu pour la biodiversité des poissons aux coquillages, des cétacés aux oiseaux, et quel effort déployé depuis le naufrage dramatique de l'Erika, dont se souvient l'une de nos invitées, évidemment Corinne Lepage. Christian Buchet, spécialiste de la mer, nous éclaire également. Et puis à 10h, on s'interroge, comment la Macronie gère-t-elle la crise des gilets jaunes? Qui conseille Emmanuel Macron pour qu'il ait voulu partir au ski un samedi, une mobilisation massive? Lui et son ministre de l'Intérieur, ça pose beaucoup en matière de gestion, mais aussi d'exemplarité. Que dit cette séquence du sens politique de gouvernement? Vous réagissez au 39-21, tous vos appels et vos témoignages aussi sur Twitter, Julie.
Oui, avec le hashtag Europe 1.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Avec nos invités Corinne Lepage, avocate et ancienne ministre de l'Environnement, présidente de CAP21. Bonjour Corinne Lepage.
Bonjour Wendy Bouchard, bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être avec nous, ainsi que Christian Buchet, directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris. Bonjour Christian.
Bonjour Wendy, bonjour à tous.
Avec ce livre, La grande histoire vue par la mer, aux éditions du Cherche Midi, qui va éclairer notre réflexion aujourd'hui. Alors que la préfecture maritime prévenait qu'on n'arrêterait pas toute la pollution s'échappant du navire italien Grande America, qui a sombré il y a donc 6 jours à 300 km de La Rochelle. Alors même si les nappes d'hydrocarbures n'atteignent pas les côtes françaises cette semaine, rapport au vent, rapport au courant, ce nouveau naufrage pose la question des marées noires qui sont désastreuses pour l'environnement. Et Corinne Lepage, c'est un naufrage qui probablement prend un relief tout particulier après la mobilisation très forte des Français pour le climat ce vendredi et ce samedi et pour le respect de l'environnement.
Oui, enfin, c'est le même sujet mais pas tout à fait. La question du climat est une question totalement vitale, celle des océans aussi, Christian nous le redira.
Pourvoyeur, hein, en certains sens, de climat aussi.
Mais il y a évidemment des liens très importants entre les deux.
Je parlais de la sensibilité,
mais
la
au niveau de la sensibilisation, oui, même si je pense qu'il y a toujours un effet choc des marées noires, oui, sur nos concitoyens. Il y a eu la MOCO, qui a été une mobilisation absolument incroyable.
Début de votre engagement, d'ailleurs, de professionnel.
Oui, 78. Hein. Moi, je me souviens des plages bretonnes, des militaires qui, à l'époque, étaient là, de cette odeur épouvantable qui allait jusque très loin à l'intérieur des terres et de l'impression d'être dans un pays en guerre. Et puis, il y a eu l'Erika, et puis il y en a eu quelques zones, le Gino, le Tagno, il y a eu le Prestige, qui a été extrêmement mal géré, on pourra en reparler peut-être tout à l'heure. Donc oui, il y a une sensibilité au sujet, mais je dirais que dans l'affaire qui nous préoccupe aujourd'hui, le sujet, bien sûr, issu de la marée noire, petite marée noire quand même, 2000 tonnes, c'est pas
230 000 tonnes de l'Erika,
et c'est pas les 40 000 tonnes de l'Erika. Moi, ce qui m'intéresse surtout avec ce dossier-là, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire les conditions du transport en vrac, le fait de contourner la législation, parce que je suis désolée, mais je pense que sur ce bateau, le fait qu'il y ait des bouts de voiture qui soient bons pour la casse, ça contredit les directives communautaires sur ce sujet. Sur le contenu même des conteneurs, je ne serais pas, on ne le saura jamais à mon avis, mais je ne serais pas étonnée qu'il y ait des déchets parce que l'Europe a la très bonne habitude, bonne évidemment entre guillemets dans ma bouche, d'envoyer ses déchets toxiques en Afrique. Voilà, donc c'est tout ce sujet-là, à mon avis, qui est encore beaucoup plus important parce que la pollution de mer par les produits chimiques, ça ne se voit pas, mais c'est tout le temps.
Ouais. Sachant qu'une pollution qui en effet se déverse à 4000 km de fond, il est possible qu'on n'en voit que le petit bout, c'est-à-dire l'écume, avec quelques galettes d'hydrocarbures sur nos plages. Un jour, Christian Buchet,
c'est tout petit.
Même pas.
Je crois que Corinne Lepage a bien planté le décor, ouais. C'est-à-dire... Heureusement, pardonnez-moi, heureusement qu'il y a ce naufrage pour nous permettre de parler de l'immense forêt qui se cache derrière ce petit arbre.
C'est ça.
Par rapport à cette manifestation importante pour le climat, vous savez, la menace majeure pour l'océan, c'est pas les marées noires, Les marées noires, c'est tout petit, c'est presque une goutte de fioul dans une mer poubelle. On en parle parce que ça fait, on voit des images du naufrage, parce qu'il y a du suspense, dérivera, dérivera pas, quand est-ce qu'arrivera la nappe. Je voudrais insister, et merci de m'en donner l'occasion, la menace majeure, personnellement pour les océans, mais toute la communauté scientifique le dit, c'est l'acidification des océans. Alors le nom est barbare, c'est déjà pas très grand public, et ça on n'en parle jamais. Pourquoi ? Parce que c'est permanent. Alors vu que c'est permanent, c'est jamais d'actualité.
Elle vient d'où,
c'est quoi l'acidification ? C'est que les océans nous rendent un service formidable. Merci à la mer. Mmh. C'est d'absorber entre 30 à 40% de nos émissions de CO2, probablement 30 aux alentours de 37%.
Oui.
Mais depuis que les océans nous rendent ce service formidable, parce que sans ça, on aurait tous beaucoup plus de problèmes de défense immunitaire, de maladies allergiques, etc., les océans s'acidifient. Et l'acidification des océans détruit la faune et la flore. Bon, je vous donne un exemple. Les coraux. Les coraux, il y a du blanchiment, ils disparaissent. Pourquoi ? Sous le double effet, un, du réchauffement climatique, deux, de l'acidification des océans. Et les coraux, c'est quasiment 30% de la reproduction, de la vie, de la biodiversité marine. Donc on voit les conséquences qu'il y a. Alors on peut même être plus que catastrophique. Le laboratoire qui est le plus en pointe sur l'acidification des océans, c'est la Royal Society britannique.
Mmh.
Je vous promets que ce ne sont pas des intégristes de l'environnement. Ils nous disent qu'à l'horizon 2100, alors ne paniquons pas, on n'est pas en 2100, à la hauteur des pôles, parce que c'est là où ça dérive principalement, les coquilles des ptéropodes, c'est-à-dire les coquillages les plus communs, pourraient se dissoudre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, et là ça rejoint tout à fait la manifestation de samedi, de dimanche dernier, c'est de dire où les océans n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus d'absorber nos émissions de CO2. Vous savez, il y a encore quelques années, on s'en souvient avec Corinne Lepage, on était là à débattre, est-ce que l'homme est responsable ou pas du réchauffement climatique, 0, 50, 100%. Mais je dirais, ça me fait penser, moi qui suis historien, au débat sur le sexe des anges au XIVe siècle. Si vous interrogez les océans, qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui ? À travers cette acidification, on n'en peut plus. Arrêter d'émettre autant de CO2.
Et ajouter à ça cette goutte de fioul dont vous parliez quand même, Christian Bucher, un navire qui s'abîme tous les 3 jours dans les mers du globe. Heureusement, un peu moins, je dis heureusement pour notre propre éthique dans les mers européennes depuis le scandale de l'Erika. On va y venir, mais j'aimerais quand même que l'on parle de ce qui se passe en ce moment, ces opérations de pompage avec ces 2000 tonnes de fioul, avec cet acide chlorhydrique, cet acide sulfurique qui peut-être s'échappe en ce moment à 4000 mètres de fond. On imagine l'état des coraux et des poissons et de la biodiversité environnante. A tout de suite avec nos invités pour faire le tour de ces questions. Naufrage du Grande America, est-il encore possible d'éviter les marées noires en cascade encore en 2019 aujourd'hui ? A tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Porte-container Grande America a sombré à 300 km de La Rochelle mardi dernier après un incendie. Est-ce dû à un accident, à la vétusté du bateau ? 214 mètres de long, il contenait 2000 tonnes de fioul et des matières dangereuses. Alors y a-t-il risque de marée noire ? Ce bateau est-il représentatif du transport maritime ? On fait le tour de la question avec vous, Wendy Bouchard.
Oui, bien sûr, on a vu pire, mais cela pose beaucoup de questions, notamment Corinne Lepage, notre invitée, les évoquait, les conditions de transport en vrac, le fait de contourner les législations, et notamment les législations européennes. Elle est avec nous, ancienne ministre de l'Environnement, avocate et présidente du mouvement Cap 21, et Christian Bucher, directeur du Centre de l'étude de la mer de l'Institut catholique de Paris. Il faut dire qu'on a constaté quand même quelque chose, c'est l'anticipation, Corinne Lepage, dans cette affaire. Peut-être est-ce l'accumulation, justement, de ces scandales et de ces drames précédents. On a vu la Marine nationale très vite en action avec un navire anti-pollution qui est allé sur les lieux du naufrage. On est à 300 km des côtes de La Rochelle. Puis on a vu, on en parlera tout à l'heure aussi, des bénévoles commencer à nettoyer les plages au cas où ces galets, ces boulettes d'hydrocarbures arriveraient pour mieux les repérer. Ça, c'est nouveau, de votre point de vue ?
Alors, malheureusement, on a un peu l'habitude.
Oui.
Hein. Bon, donc l'expérience, elle sert. Alors, je ne sais pas si c'est le mot de prévention, mais en tout cas, c'est de la préparation.
Oui.
C'est-à-dire que oui, on a essayé, là vous essayez de la prévention, d'éviter la pollution. Mm. Donc en envoyant les bateaux sur place.
Ils pompent en ce moment.
On va pomper. Ouais. Sans être pessimiste, je ne pense pas qu'on arrive à tout pomper.
Ouais.
Et surtout qu'on est à 3 nappes maintenant qui dérivent. L'angle, comme le disait Christian Bucher tout à l'heure, est extrêmement large. Et par conséquent, j'ai bien peur qu'on ait une partie du littoral qui soit arrosée. Le plus important, c'est qu'il le soit le moins possible. Alors là où c'est très intéressant, c'est de voir d'abord la préparation des professionnels. Les ostréiculteurs ont mis leurs huîtres à l'abri. Les plus embêtés, c'est les mytiliculteurs, parce que les moules, elles peuvent rester que dans la mer. Donc là, il n'y a pas énormément de choses à faire. Les marais salants de Guérande, qui en ont pris quand même plein les oreilles, si j'ose dire, au moment de l'Erika. Donc, ils essayent de se protéger. Et puis, alors ça, je dirais que c'est un angle qui est à la fois technique et judiciaire, préjudiciaire. C'est le fait d'avoir une vue tout à fait complète et précise de l'état des plages. C'est-à-dire que non seulement elles sont nettoyées, mais elles sont photographiées de manière à ce qu'on puisse très facilement établir la pollution si elle arrive. Mmh. Donc ça, c'est quand même extrêmement important parce que l'expérience prouve aussi que quand il y a des contestations ultérieures, on vient vous dire que c'est pas ça, que c'était autrement, etc.
Donc là, on a les preuves.
Donc là, on se constitue, si je puis dire, par avance nos preuves, c'est une très bonne chose. Là, il y a quelque chose que je comprends pas très bien, c'est pourquoi le parquet n'a pas encore ouvert une information. Je comprends pas. C'est pas dans nos eaux territoriales, mais c'est dans notre zone économique exclusive. Donc, on a une compétence indéniable. On se pose des questions sur l'état du bateau, même s'il n'était pas très vieux, 99, mais apparemment, il a eu des soucis. Il y a eu deux jours où, visiblement, la gestion n'aurait pas été optimale. Je parle au conditionnel
oui,
parce que
j'y étais pas. Oui, on peut poser beaucoup de questions. Il y en a qui se posent.
Voilà. Ouais. Donc, moi, je ne comprends pas qu'on n'ait pas déjà saisi un juge d'instruction pour qu'il commence à constituer tous les éléments de preuve, parce que plus vite on commence, et mieux c'est.
Oui, les questions que vous voulez poser aussi.
Je rejoins Madame Lepage,
sur les origines de l'incendie.
C'est pas la première fois que nous rejoignons. Oui. Moi, j'ai beaucoup d'interrogations. Bon, d'abord, cet incendie a duré un certain temps. Ma première question, c'est de savoir comment se fait-il qu'on n'ait pas réussi à juguler, maîtriser cet incendie. Est-ce que ça veut dire que les détecteurs de fumée et d'incendie fonctionnaient? Est-ce qu'ils ne fonctionnaient pas?
Est-ce qu'il y avait des matières vraiment très inflammable à bord.
Était-il bien déclaré? Parce que vous savez, après, les conteneurs dangereux, on ne les place pas n'importe comment à bord. Il s'agit d'être le plus réactif sur eux en cas de difficulté, donc on ne les met pas au cœur, on ne les met pas au milieu du navire. Donc, est-ce que ça veut dire que ces conteneurs étaient au bon endroit? S'ils n'étaient pas au bon endroit, ça pose encore une infinité de questions. Est-ce que ça veut dire que les matières inflammables, c'est-à-dire dangereuses, auraient été oui ou non bien déclarées? Donc, vous voyez, il y a
c'est
beaucoup...
C'est plus cher, hein,
beaucoup...
ces matières dangereuses sont évidemment plus chères.
C'est plus cher. Donc vous voyez, il y a beaucoup de questions à se poser. Bon, c'est un navire que je ne peux pas qualifier de navire poubelle. Pourquoi? Parce qu'il est à peu près entretenu, entretenu même, mais c'est un navire à risque. Hein. C'est un navire à risque. Déjà, d'abord, il a 22 ans. Vous savez, mes étudiants m'ont montré que 80% des naufrages procèdent de navires de plus de 15 ans. Donc je n'explique pas tout, mais enfin, il n'y a pas photo quand même. Hein. C'est un navire à risque. Pourquoi? Parce que déjà, en 2010... fait quand même 9 ans, au Royaume-Uni, à Tilbury, ils avaient repéré 10 éléments qui n'étaient pas aux normes. Donc bien sûr, ça a été mis aux normes depuis, mais les inspecteurs de sécurité maritime qui font un bon travail, et ça a été considérablement amélioré parce qu'on fait maintenant des inspections ciblées et non pas au petit bonheur la chance, récemment à Hambourg, récemment en Vert, on a noté encore un certain nombre de dysfonctionnements.
Et il faut dire que ce sont des bateaux qui sont en proie à des déchaînements d'éléments, ce qui avait causé en partie le naufrage de l'Erika avec les fissures. On a beau avoir des navires en apparence très robustes, ils sont tellement battus et rebattus par les vagues.
Enfin, l'Erika, il était en bout de course.
Il était en bout de course également.
Hein. Un navire est censé pouvoir tenir en tempête, parce que s'il s'agissait d'accueillir tous les bâtiments juste avant une tempête, tous nos ports et tous nos quais ne suffiraient pas.
Je voudrais que vous reveniez sur ce que disait Corinne Lepagne juste avant la pause. Nous sommes en zone...
En zone économique exclusive, c'est-à-dire nous sommes en zone française.
C'est ça.
Nous sommes en zone juridiquement de juridiction française.
À 300 km des côtes. C'est donc la loi française qui.
Là, effectivement, on a 200 000 marins, donc 200 fois 1852 mètres égale 372 km. Donc un naufrage à 333. Il n'y a pas débat là-dessus. Ce sont les eaux françaises. Donc effectivement, le parquet peut tout à fait agir.
On fait le tour de la question sur cette marée noire qui s'achemine peut-être vers les côtes françaises. Elle pose beaucoup de questions, notamment sur la gestion de ces routes maritimes, de ces transports, de ces circuits, comment ces bateaux sont contrôlés aujourd'hui, notamment depuis le grand naufrage de l'Erika que vous connaissez bien, Corinne Lepage. Christian Buchet est avec nous. Et puisqu'on évoquait aussi les conséquences pour les professionnels et pour la biodiversité, Philippe Le Gall du Comité national de la conchyliculture et Alain Bougrain-Dubourg seront avec nous pour témoigner au 39-21.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Après le naufrage du Grande America, va-t-on assister à une nouvelle marée noire ? Wendy Bouchard.
Les opérations de pompage ont commencé, les citoyens se sont mobilisés. Opération de pompage de la Marine nationale en action avec un navire anti-pollution qui se concentre sur une des nappes d'hydrocarbures. Sur les trois, nous décrivait Corinne Lepage, avocate, ancienne ministre de l'Environnement, en présence de Christian Bûcher, auteur notamment de La grande histoire vue par la mer. On verra ensuite comment la mer peut être vraiment une chance pour la France et pour les Européens. Aujourd'hui se pose la question de ces pollutions et d'ailleurs de qui va payer la facture de ces opérations de pompage, de ces catastrophes environnementales à l'avenant, à chaque fois. Corinne Lepage, qui paye dans ces histoires ?
Alors, en ce qui concerne le pétrole de soute, il y a une convention particulière, qui s'appelle la convention Bunker, qui ressemble un peu à la convention qui régit la question de la pollution de mer par hydrocarbures.
Oui.
C'est-à-dire qu'on distingue quand le bateau transporte de l'hydrocarbure et quand le bateau n'en transporte pas, mais que c'est son pétrole de soute qui pollue. Alors vous allez me dire, pour la mer, le résultat est le même, mais en termes d'organisation de la responsabilité, c'est pas la même chose. Donc c'est une convention qui ressemble beaucoup à la précédente, qui plafonne la responsabilité du propriétaire.
Mm-hmm.
Quand vous avez des plafonnements de responsabilité, ben ensuite ça devient beaucoup plus difficile pour aller chercher les responsabilités et la réparation. Alors ceci étant, j'ai fait juger dans l'affaire Erika, par la Cour de justice des communautés européennes, que les boulettes, c'était des déchets. Ça paraît une évidence, mais enfin, c'était pas comme ça. Et donc, à partir du moment où
c'est une avancée considérable, parce que ça permet d'aller plus loin, c'est essentiel. Hein.
C'est très important, et ça joue pour tout. Et par voie de conséquence, au-delà de ce que prévoit la Convention, c'est le droit commun qui s'applique. C'est-à-dire que si le propriétaire du bateau a une part de responsabilité dans l'accident, ben, il paye pour la différence. Mais ça peut être aussi un partage avec le chargeur, c'est-à-dire celui qui a mis les conteneurs sur le bateau. Ça peut être une responsabilité partagée avec celui auquel appartient les conteneurs, si d'aventure ces conteneurs n'auraient pas dû se trouver là, etc., etc. Donc voilà, il peut y avoir toute une kyrielle de responsabilités possibles.
Il y a forcément des zones d'ombre, parce qu'à 4000 mètres de fond, on ne connaîtra jamais les conteneurs clandestins, éventuellement, Christian Bûcher, qui se trouvera à bord. Hein.
Conteneurs clandestins, mais surtout clandestinité de ce qu'il y a dedans, parce qu'on ne sait pas toujours, vous savez, c'est considérable le nombre de conteneurs, tout passe par conteneur en dehors du gaz et du pétrole, bon, qu'on en fait passer un certain nombre sous portique, les douanes, en fonction des moyens qu'elles ont, rentrent dans certains, bon, dans ce sens-là, on n'a pas trop à craindre, mais il serait venu dans l'autre sens, on aurait très bien pu imaginer qu'il y ait des hommes, des femmes, dans certains de ces conteneurs, au titre de l'immigration clandestine.
Ouais, alors,
donc vous voyez, c'est quand même, il s'agit d'être beaucoup plus transparent, certains groupes, je ne veux pas mettre un nom plus qu'un autre, mais CMA-CGM par exemple, est en train de travailler sur la digitalisation pour qu'en temps réel, on puisse savoir où se trouve tel et tel conteneur et qu'est-ce qu'il donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'informatique, je dirais, n'a pas été suffisamment loin, la digitalisation n'a pas été encore suffisamment loin au niveau du transport maritime.
Sachant
il y a encore des marges de progression.
Sur les grandes américains, on a quoi, 400 conteneurs, mais vous avez des porte-conteneurs avec 20 000 conteneurs.
Ah,
et donc, il est impossible de tout contrôler.
Pour vous donner un ordre de grandeur, un conteneur de 16 000 20 boîtes, c'est 97 km de camion bout à bout, ou si vous tenez compte du code de la route pour laisser un espacement quand même entre deux camions, ça vous fait
234 km.
Donc on voit bien la difficulté que ça représente. 86% aujourd'hui en volume du transport mondial passe par les mers.
Incroyable. On est là face à un bateau qui venait du port d'Hambourg où il a récupéré sa cargaison et qui se dirigeait vers Casablanca, qui a fait naufrage donc à 300 km des côtes françaises. Est-ce qu'on est dans le circuit, dans les routes maritimes du circuit classique un peu aujourd'hui, Christian Bûcher,
dans
les mers
occidentales ? Oui, on est dans le circuit tout à fait classique. Alors ce qui convient de dire quand même, les choses ont beaucoup progressé grâce au combat que nous avons mené, on évoquait le combat réussi de Corinne Lepage par rapport à mettre en déchet un certain nombre d'hydrocarbures permettait une meilleure indemnisation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours autant de naufrages. Il y a en gros 115, 120 naufrages de gros navires de plus de 300 tonneaux par an. Donc effectivement, ça fait le naufrage d'un navire tous les deux ou trois jours sur les mers du globe. Alors, on a fait beaucoup de choses. On a eu les paquets Erika 1, 2 et 3. L'Agence européenne de sécurité maritime fait un bon travail. Donc aujourd'hui, il y a moins de naufrages
dans
les eaux européennes, mais il y en a beaucoup plus dans l'hémisphère sud. C'est-à-dire que nous sommes dans une logique qui est logique, mais qui est une mauvaise logique.
Ça veut dire qu'on leur envoie, pardon, aussi nos bateaux dégueulasses.
Qu'est-ce qui se passe ? Nos armateurs qui ont des moyens financiers achètent des navires neufs, Et puis, quand ces navires commencent à prendre de l'ancienneté, ils vont les revendre, parce que ce sera plus coûteux en termes d'entretien, ils vont les revendre à des armateurs, plutôt dans l'hémisphère sud, qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture neuve ou un bateau neuf, qui, eux, auront moins de surface financière pour les entretenir.
Donc, on se débarrasse du problème en polluant de toute façon.
L'entretien est considérable. Ouais. Et donc, il y en a beaucoup plus. Alors, vous me direz, loin des yeux, loin du cœur.
Hein. C'est terrible.
Mais le poisson que vous mangez, vous ne savez pas. Et puis, on sait bien qu'aujourd'hui, il faut parler de l'océan dans sa globalité, de l'océan mondial. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais l'océan, la mer, c'est la grande chance pour chacun.
On en parlera, tous les domaines. Bûcher, on en parlera.
Ce qu'on nous assistons, c'est un scandale écologique, mais c'est une aberration économique en même temps.
Ouais, je vous ferai réagir sur le sujet, Corinne Lepage, juste après la pause, parce que ça pose vraiment question. Autant de naufrages, mais différemment ventilés sur les mers du globe, avec ce peu de scrupules des armateurs qui vendent leurs bateaux poubelles à ceux qui les achètent dans le sud. Bah, c'est la logique, voilà, économique en effet. A tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Tous les 2-3 jours, un navire fait naufrage dans les mers du globe. C'est ce qui est arrivé au Grande America, ce navire de commerce italien qui a sombré mardi dernier dans l'océan Atlantique à 300 km de La Rochelle. Wendy Bouchard.
Avec des navires, des vieux navires européens souvent rachetés par les continents du Sud. Corinne Lepage, dans une logique économique que nous décrivait avec réalisme, mais on peut voir le cynisme aussi des armateurs, Christian Buchet, il y a un instant. Et vous nous disiez pendant la pause que finalement tout a commencé avec la Mococadis dans cette espèce
dans ce jeu de
cycle
je sais pas comment il faudrait l'appeler. Jusqu'à la Moco, tout au moins jusqu'au jugement de la Moco, les pétroliers étaient propriétaires de leurs bateaux.
Oui.
Ils avaient une convention faite sur mesure qui limitait la responsabilité des propriétaires. Et il la limitait d'autant plus qu'il y avait une série de sociétés poupées gigognes et que la société propriétaire du bateau, ben, elle avait comme bien que le bateau. Donc il n'y a plus de bateau, il n'y a plus de société et les victimes, ben, elles pouvaient pleurer. Mmh. Ce qu'a jugé la juridiction américaine, et c'était une avancée de droit extraordinaire, on ne l'a toujours pas en France aujourd'hui, c'est que les sociétés mères étaient responsables pour leurs filiales. Ce qui veut dire que dans la Moco, c'est la grand-mère, si je puis dire, qui a payé pour sa petite-fille.
Ouais, ouais.
Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les pétroliers? Ils ont vendu leur flotte. Ils sont devenus affréteurs. Donc, ils ont vendu leur flotte, dans certains cas, à des gens très bien, et dans d'autres cas, à des gens pas bien du tout. Nous avons achevé, si je puis dire, le travail avec Christian Huglot, avec l'Erika, parce que les pétroliers sont devenus affréteurs. C'est-à-dire que c'est eux qui chargeaient les bateaux. Je parle toujours des hydrocarbures, hein. Je ne parle pas d'autre chose. Et donc, ils se sont débrouillés pour améliorer la convention et ne pas être responsables non plus en cas d'accident, comme l'étaient antérieurement les propriétaires de bateaux. Et avec l'Erika, on a fait sauter ça, puisque les affréteurs sont devenus responsables, ou possiblement responsables.
Ils n'ont plus le moyen d'achever leur responsabilité aujourd'hui.
Ça veut dire que propriétaires ou affréteurs, dans les deux cas, ils payent.
S'ils ont la surface financière, ce qui était le cas de l'Erika, ce qui n'était pas le cas dans le Prestige, parce que l'affréteur n'avait pas les moyens financiers. Et...
Oui, et puis le Prestige a été quand même assez malmené. Ces trois pauvres types lampistes qui ont été condamnés, et les vrais responsables, ils sont quand même passés à travers. Et je suis pas tout à fait d'accord, parce que le Prestige, c'est quand même une grosse société multinationale qui était derrière. Je crois que c'était Trafigura qui était derrière, avec la mafia russe qui était pas très loin. Et donc, en fait, c'est des gens qui avaient beaucoup d'argent, mais qui avaient bien organisé leur insolvabilité. Voilà, c'est ça le fond de l'affaire.
Il y a aujourd'hui une question qui se pose et qui est soulevée par Yannick Jadot, député européen. À partir du moment où un navire arrive sur un port européen, il faut absolument renforcer les contrôles. Il faut des personnes pour respecter ces règles. Il considère qu'il y a des failles en la matière aujourd'hui et que nous n'avons peut-être pas assez de moyens douaniers pour, vous le disiez, Christian Buchet, regarder exactement ce que transportent aujourd'hui ces conteneurs. On a pourtant une agence européenne pour la sécurité maritime qui doit faire le job aujourd'hui.
Écoutez, elle fait le job, on peut dire qu'on l'évoquait, il y a beaucoup moins de naufrages dans nos eaux. Vous savez, avant les paquets Erika 1, 2 et 3, on faisait des inspections, mais un petit peu à l'aveuglette. aujourd'hui, on fait des inspections de manière ciblée. Et c'est bien pour ça que ce navire, le Grande America, a été passé au crible à plusieurs reprises. Alors peut-être que ce n'est pas suffisant. Il faut voir après si ce qu'on a marqué... C'est un peu comme un contrôle technique pour une voiture. On vous repère un certain nombre d'éléments, vous avez 15 jours pour revenir, et c'est toujours le voyage de trop. Aujourd'hui, les inspections sont ciblées. Ciblées à partir de quoi? À partir de l'âge du navire. Ciblées à partir de la société de classification. La société de classification, c'est celle qui dit, qui repère les dysfonctionnements éventuels. Si on repère que certaines sociétés de classification sont un peu trop bienveillantes, on va inspecter de manière plus ciblée leur navire.
Ouais. Donc, mais s'il y a des ports européens où les contrôles sont un peu plus laxistes, pour dire les choses, et le port d'Hambourg était ciblé, en l'occurrence, par Yannick Jadot.
Oui, je ne sais pas. Là, ça resterait à voir, ça dépend des moyens. C'est pas forcément le navire en tant que tel, là. C'est que des conteneurs ont pris feu, c'est plus ta cargaison. Donc ça pose peut-être davantage la question... Sait-on bien ce que transportent les conteneurs? Est-ce que les matières dangereuses sont-elles toujours bien déclarées? Au pifomètre, à l'évidence, non.
Et bien transportées, puisque vous reveniez sur l'idée du transport en vrac, Corinne Lepage.
Moi, j'ai plusieurs... ce que vient de dire Christian Buchet m'appelle de ma part un certain nombre d'interrogations. D'abord, j'ai entendu dire qu'il y avait des voitures pour la casse.
Ah oui.
Bon, ben, je suis désolée. Logiquement, si on applique la réglementation communautaire, les voitures pour la casse, on les garde chez nous.
Déchets.
Les véhicules hors d'usage.
Qu'est-ce qu'on les envoie en
Maroc ?
Les
véhicules hors d'usage doivent être recyclés, dépecés, recyclés chez nous. C'est la législation communautaire. Donc, j'ai effectivement une question là-dessus. Pourquoi autorise-t-on des transports de pièces pour la casse alors que visiblement, c'est pas permis. Première observation. Deuxième observation, je suis très étonnée de ce que aujourd'hui il y ait, de par les mers du globe, beaucoup d'incendies.
C'est le premier risque. Ça semble toujours curieux parce qu'on est autour de l'eau, bien évidemment. Mais l'incendie est le risque premier. C'est le troisième naufrage par incendie depuis le début de l'année. On est mi-mars.
Ça fait beaucoup. Donc je me pose des questions là-dessus.
Sur quoi ? Sur les règlements de compte ?
Sur la réglementation, sur la manière dont elle est appliquée, sur la réglementation elle-même, dans la mesure où elle permet de transporter des matières qui risque de s'enflammer et d'entraîner des pollutions considérables.
Oui.
Donc là, je pense que ça revient à la question précédente. Ce n'est pas de la casse de véhicules, mais c'est des produits toxiques. Est-ce que ce sont des produits ou est-ce que ce sont des déchets ? Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas réglementation. Si c'est des déchets, nous sommes priés de les garder chez nous et de les traiter chez nous en Europe. Pas de les envoyer en Afrique. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suspecte fortement, mais j'ai aucun élément de preuve, que dans ces conteneurs, il devait bien y avoir une partie non négligeable de déchets toxiques, puisque nous les évacuons et qu'on n'a pas le droit de le faire.
Oui, et en l'occurrence, Christian Buchet, acide chlorhydrique, acide sulfurique, on a déjà peut-être une partie de la pollution qui est dans nos airs aujourd'hui.
Merci de le dire, Wendy Bouchard, parce qu'on pense qu'aux marées noires, qu'aux galettes, mais attendez, cette combustion, tous ces acides qui ont brûlé, ils sont peut-être déjà en transit dans nos narines, etc. Il faut bien voir qu'il n'y a pas que le pétrole, tout ce qui brûle et le fait qu'il ait brûlé tout incendie génère effectivement des phénomènes de CO2, génère des phénomènes de gaz à effet de serre qui sont très préjudiciables.
Ouais.
Non pas pour la planète, vous savez, quand on dit on va sauver la planète, ça me fait tout, c'est pas une bonne formule. La planète, elle a vécu à 362 degrés, nous à 42 degrés, on disjoncte. Hein. C'est l'homme, les animaux, mais l'homme en premier qui est menacé à travers sa santé, ses petits bobos quotidiens.
Et les animaux, on va en parler avec Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de protection des oiseaux, qui connaît bien, hélas, les conséquences sur la biodiversité de ce type de pollution. Tout de suite sur Europe 1 pour faire le tour de la question. Un navire qui continue de sombrer dans les mers du globe chaque année. Un navire tous les 3 jours, pardon, si seulement 115 navires par an. À tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Europe 1. Le tour de la question, la suite. Nous parlons du naufrage du Grande America au large de La Rochelle. Avec nos spécialistes, Corinne Lepage, intervenue dans les dossiers à la fois de la Mococadis, de l'Erika et de tant d'autres naufrages férus d'environnement, vous la connaissez dans son action au quotidien. Avec Christian Buchet, spécialiste de la mer et auteur de La grande histoire vue de la mer. 115 naufrages par an, à peu près, de gros bâtiments, principalement sur les routes maritimes, de moins en moins dans les mers européennes, mais partout dans le monde, cela reste vif. Et chaque année, combien de tonnes de boulettes de mazout, de fioul qui touche nos mers?
D'après les calculs de mes étudiants, sur 15 ans en point médian, au total, la somme des petites, des grandes, des moyennes marées noires, c'est 150 000 tonnes de marées noires qui se déversent sur les mers du globe. Mais si vous prenez le dégazage, qu'on pourrait mieux appeler le déballastage, c'est-à-dire le fait de nettoyer ses cuves, on utilise du pétrole, c'est 1,8 million de tonnes, c'est 12 fois plus. Et
si vous additionnez... Théoriquement, les navires, ils dégazent où ?
Alors, théoriquement, ils doivent laver leurs cuves, etc., dans les ports. Bon, d'abord, faut-il que tous les ports soient équipés et un certain nombre de ports, y compris de l'Union européenne, pas les nôtres, ils sont équipés, mais un certain nombre de ports de l'Union européenne sont mal équipés. Et puis, ça suppose pour le navire de rester plus longtemps au port. Ce sont des délais d'immobilisation.
Et ils payent.
Il faut payer. Donc, ça coûte moins cher de balancer ça en mer, surtout quand il risque de rien vous arriver. Sauf que, et là, c'est une des grandes avancées, depuis tout ce qui a été fait maintenant en France, on observe, il y a des ruineaux spécialisés, etc. Donc, on dégaze moins dans nos eaux, mais on dégaze davantage ailleurs. Mais vous savez, il y a des vents, des courants dans la mer et tout ça se mélange. Alors, allons un petit peu plus loin. La mer, c'est 6 millions de tonnes par an de pollution. Donc, on voit qu'il ne faut pas se tromper de sens. Les marées noires, ce n'est que 150 000 tonnes. Même si on additionne 1,8 million de tonnes, ça fait un petit 2 millions de tonnes qui vient de la mer. Mais il ne faut pas se tromper de sens, ce n'est pas la mer qui pollue la terre, c'est la terre qui pollue la mer, plus de 4 millions de tonnes.
Alain Bougrain-Dubourg, tous ces chiffres doivent vous faire sursauter et pourtant vous les connaissez par cœur. Président de la Ligue de protection des oiseaux, bonjour Alain.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, ben, bonjour. C'est toujours effrayant. Et avant les boulettes arrivent les oiseaux en général, donc on pense qu'ils vont arriver dans les quelques jours qui viennent, et on dit ah ben c'est pas forcément une pollution parce que si les vents repoussent le pétrole, les côtes ne seront pas touchées. Si, il y a une pollution qui est avérée, et actuellement, si vous voulez des chiffres, on sait que sur une centaine d'oiseaux touchés, 50 meurent en mer avant d'atteindre les côtes. Et des 50 restants, on arrive à en soigner, en sauver 25 à 30. Mais c'est extrêmement difficile parce que un oiseau qui a été touché à 300 km des côtes, il va mettre une dizaine de jours avant de nous arriver. Et pendant ce temps-là, il n'aura pas mangé. C'est-à-dire que, comme je viens de l'indiquer, ben, le plus souvent, il va mourir. Et celui qui arrive, il est agonisant. Surtout quand c'est du pétrole lourd, comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc, autant quand ils sont proches des côtes avec du déballastage, comme on vient de le dire, on arrive à les soigner beaucoup mieux, autant, pareille circonstance, ça va être très dur. Et évidemment, la première des choses, c'est qu'il faut réhydrater ces oiseaux qui n'ont pas mangé, qui sont en survie. Par exemple, un guillemot, qui sont les oiseaux les plus touchés, parce qu'ils sont très concentrés dans ces zones. En théorie, il pèse 700 grammes à peu près. Mm-hmm. Quand il arrive, il peut peser 400 grammes, 500 grammes. Donc on va le réhydrater, lui donner des vitamines, le nourrir. Et enfin, on va commencer à le laver avec de la paraffine et d'autres...
Voilà, et c'est toujours catastrophique pour vous, ce genre d'épisode, d'autant que là, nous nous trouvons quasiment en période de reproduction, ce qui vous fait craindre encore davantage.
Écoutez, d'un côté, c'est une bonne nouvelle parce que certains oiseaux, comme les foudbassans, ont déjà rejoint le littoral pour nidifier, donc ils sont plus sur zone, mais les jeunes sont restés. Et puis, ce qui nous inquiète, comme vous le dites, en Charente-Maritime, par exemple, on a énormément de réserves qui prouvent que le milieu naturel est admirable, à Noirmoutier également. Bon, il y a Yves, il y a l'îlot des Niches dans l'île de Ré, tout ça. Bon, et là, les oiseaux arrivent pour nidifier au moment où on parle, et il est certain que quand ils vont sur les vasières à marée basse pour se nourrir, s'ils tombent sur des boulettes de pétrole, là, ça va être très, très impactant.
Des oiseaux qui sont touchés, mais les poissons, on imagine également. Est-ce que les oiseaux sont touchés par le fait d'avoir, de s'être nourris de poissons contaminés ?
Ils sont touchés par une boulette. Ils ont besoin d'une isolation thermique et ils ont... Et par conséquent, si jamais il y a une boulette, immédiatement, l'eau pénètre dans le plumage et ils n'arrivent plus, ils peuvent se noyer tout simplement et prendre froid. Voilà, ça fait partie des difficultés. Wendy, est-ce que j'ai une seconde pour parler du FIPOL et de la solidarité des gens qui, en pareilles circonstances, comme ça a été le cas pour l'Erika, donne deux sous trois ronds, mais avec une générosité admirable pour être solidaire et nous aider, parce qu'on a besoin d'argent immédiatement pour aménager les piscines, que sais-je encore, accueillir tous les bénévoles. Là, actuellement, il y en a 300 qui sont positionnés dans le réseau LPO.
Oui.
Et il se passe une chose incroyable, c'est que le FIPEL, c'est une sorte d'assurance, on va dire, des pétroliers. Eh bien, quand on fait les comptes 2 ans après pour qu'ils payent ce qu'ils doivent, ils disent « Ah non, mais attendez, vous avez reçu des dons, donc on n'a pas à payer ». Puisque vous avez touché de l'argent. Et c'est tout à fait scandaleux. J'en parlais avec Christian Huglot. On va essayer de faire en sorte que le FIPEL assume ses responsabilités et que les gens qui sont d'une générosité remarquable ne soient pas pris en otage dans ce genre d'affaires.
Le FIPEL, Corinne Lepage.
Oui, ben le FIPEL. Bonjour Alain.
Bonjour Corinne.
Le FIPEL est cet organisme dont je parlais tout à l'heure quand je parlais de la Convention sur la responsabilité de mer du fait des pollutions, c'est lui qui intervient au-delà du plafond de responsabilité du propriétaire. Bon, c'est un fonds qui est très riche, hein, mais alors d'un radinisme particulièrement marqué. Et ça, c'est honteux. D'abord, c'est juridiquement faux, ce que Christian Huglot a regardé, et je pense qu'on tient un bon filon sur le plan juridique, mais sur le plan éthique, c'est absolument inacceptable, c'est indéfendable, totalement indéfendable.
Ah, merci de l'avoir souligné. On suivra aussi le dossier avec vous, Alain Bougrain-Dubourg, et avec tous ces bénévoles qui surveillent activement la situation aussi du côté des côtes atlantiques. Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de protection des oiseaux. Encore quelques instants pour parler de ce naufrage, de ses conséquences surtout, et de ce que la mer possède en elle de richesse pour s'en sortir peut-être et pour nous donner le meilleur. Heureusement, Christian Buchet peut nous en parler avec Corinne Lepage encore en studio jusqu'à 10h avec vous, Julie.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Nous parlons du naufrage du Grandet America, ce bateau en provenance de Hambourg à destination de Casablanca, qui transportait 365 containers, dont 45 répertoriés comme contenant des matières dangereuses, et 2200 tonnes de fioul. C'est colossal, hein, tout ça.
Un bateau qui est assez symbolique, finalement, de ces drames dans les mers du globe. Heureusement que nous avons des hommes et des femmes qui se battent pour faire avancer la législation. Et Corinne Lepage en est l'une des fières représentantes, avocate et ancienne ministre de l'Environnement. Christian Buchet, j'aimerais qu'on termine avec une note un peu positive, parce qu'on a donné des chiffres désastreux et nous nous sentons si impuissants face à cette pollution parfois cataclysmique, si l'on repense à l'Erika ou à la Mococadis. Comment tirer profit d'une grande chance qu'est la mer?
Vous savez, la mer, c'est fabuleux. Il y a 3 règnes végétaux en mer contre un seul sur terre. En mer, vous avez le vert, le rouge, l'ocre. Sur terre, vous avez que le vert. Et quand c'est l'été indien, c'est la dépigmentation du vert. Mais on est dans cette unique règne végétale, le vert. Pour vous montrer à quel point c'est incroyable la biodiversité, on se rend compte aujourd'hui, et ça va dans le sens du développement désirable, que la nature, quand on s'émerveille sur elle, quand on prend le temps de la regarder ou de la regarder différemment, qu'elle est en avance au niveau des plus formidables projets de recherche et développement. Par exemple, si vous prenez la peau d'un requin, on s'aperçoit que le requin, il sécrète une substance qui est le plus formidable anti-fouling qui existe. Aujourd'hui, vous savez, l'anti-fouling, c'est ce qu'on remet sur les coques des bateaux pour empêcher phytoplancton, le phycoplancton, etc. de se mettre dessus. Donc, la nature trouve des moyens que nous méconnaissons encore. Si vous prenez le byssus de la moule s'accroche au rocher par une espèce de colle qu'elle sécrète. Ça marche dans l'eau et dans l'eau de mer. C'est supérieur aux plus belles colles que l'on sait faire. Si on regarde avec un autre regard la nature, c'est affolant. On s'aperçoit que la nature est très en avance. Donc au lieu de détruire la nature, inspirons-nous d'elle parce qu'elle nous donne même les solutions pour créer des éléments chimiques compatibles avec la nature.
Christian Buchet, qui est aussi inspirant auprès de ses élèves de l'Institut catholique de Paris, qui travaillent beaucoup pour vous. Vous les avez largement cités dans cette émission, donc bravo à eux aussi. Corinne Lepage, pour terminer aussi sur un peu plus d'espoir, puisqu'on commençait avec cette grande marche pour le climat. Les sujets sont éloignés, mais quand même sur la sensibilisation important. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Corinne?
Je partage totalement l'enthousiasme de Christian sur le biomimétisme. Vous avez déjà, par exemple, le Kevlar, il a été inventé, enfin si je puis dire, il n'a pas été inventé, il a été imité de la nature. La toile d'araignée aussi, parce que c'est un fil qui est extrêmement solide. Donc voilà, on arrive en regardant tout simplement ce que la nature est arrivée à inventer, à avoir des solutions. Et là, aujourd'hui, on parle beaucoup de transition écologique. Moi, je pense que ce n'est pas une transition, c'est quelque chose de beaucoup plus brutal. C'est une rupture une rupture à laquelle on va
notamment
assister.
Sur les moyens de propulsion de ces navires.
Surtout sur les navires, sur l'énergie, sur nos moyens de produire, sur nos manières de consommer. Mais c'est en même temps, cette mobilisation des jeunes, pour moi, c'est formidable.
C'est
un bain de jouvence dans le monde.
Ils sont bien, nos jeunes.
Ouais. C'est un bain de jouvence, c'est formidable, parce que vous voyez, pendant le grand débat, on disait les jeunes sont absents. Ça veut dire qu'on n'a pas su leur parler, que ce qu'on leur disait ne les intéressait pas. Ouais. Par contre, le climat, c'est leur avenir.
Absolument.
Ils savent que leur peau est en jeu. Et le slogan de la petite Thunberg qui dit « à quoi ça sert que j'aille à l'école si j'ai pas d'avenir ?» Ouais. Ben, elle a entièrement raison. Et ils sont en train de remettre les pendules à l'heure et, si j'ose dire, l'église au milieu du village. C'est-à-dire que l'on sache ce qui est essentiel et comment on y va. Le reste, ça suivra. Mais c'est vraiment une question d'imaginaire et de comportement avant d'être une question de technologie et de savoir-faire.
Oui, on ajoute à cela quand même le droit de l'environnement que vous représentez bien et vous faites des émules, j'en suis sûre, à chaque fois, Corinne Lepage. Merci à vous de votre présence, Christian Bûcher également. On
Merci
se retrouve
Wendy.
Dans un instant avec une question un peu polémique après un week-end de mobilisation. Emmanuel Macron au ski, Christophe Castaner en boîte de nuit il y a quelques jours. Est-on gouvernant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et qui conseille la Macronie en période de crise? On est en droit de se poser la question et on attend vos réactions. Elles seront nombreuses au standard 39-21.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Avant l'info, un petit point météo avec Laurent Cabrol. Donc ça s'améliorerait, Laurent.
C'est vrai, Wendy, tout à l'heure, je me suis risqué du bout des lèvres à une prévision à long terme sur les 15 jours qui viennent, en vous disant que le beau temps devrait quand même s'installer pour une quinzaine de jours. Bien entendu, rien n'est moins sûr. Il s'agit d'une prévision qui n'engage que moi, vous l'avez compris. Aujourd'hui, c'est une journée presque automnale, hein, parce qu'il ne fera pas chaud, entre 10 et 16 degrés, avec pas mal de nuages et des averses parcimonieuses. Et puis, à partir de demain, le temps va se mettre au beau. Et cette situation extrêmement agréable, ça, sûrement, va durer au moins jusqu'à dimanche et lundi prochain. Et puis, peut-être, comme je l'espère et comme je l'ai annoncé, jusqu'à la fin du mois.
Espoir partagé. Merci, Laurent. Voici l'info.
Il est 9h59 sur Europe 1. Bonjour, Marion Calais.
Bonjour, Julie. Bonjour à tous. Il est reçu en ce moment au Vatican, le cardinal Barbarin, chez le pape François, pour lui remettre sa démission. Audience privée. L'archevêque de Lyon avait annoncé son intention de quitter ses fonctions après sa condamnation pour non-dénonciation d'agression sexuelle. Autre rendez-vous de la matinée à l'Élysée, celui-là, tout à l'heure, à partir de 11h30. Édouard Philippe doit faire des propositions après les violences du week-end sur les Champs-Élysées lors de la manifestation des Gilets jaunes, des restaurants, des boutiques, un kiosque vandalisé. Selon les informations d'Europe 1, Emmanuel Macron n'exclut pas d'interdire les manifestations sur les Champs-Élysées. Et si Matignon a reconnu des dysfonctionnements, le secrétaire d'État à l'intérieur, Laurent Nunez, estime, lui, chez nos confrères de RTL, qu'il va falloir examiner les responsabilités de la chaîne de commandement. Une opération de police ce matin au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, là où deux surveillants ont été agressés il y a près de 2 semaines. D'après les informations d'Europe 1, les enquêteurs de la police judiciaire appuyés du RAID sont entrés dans la prison afin d'y procéder à plusieurs interpellations de détenus. C'est la deuxième ville du Mozambique, Beira, plus de 400 000 habitants et elle a été quasiment rayée de la carte. Selon la Croix-Rouge, la ville est endommagée ou détruite à 90% après le passage d'un cyclone. Bilan humain pour l'instant difficile à établir. Routes et moyens de communication sont coupés. On compte aujourd'hui au moins 68 morts au Mozambique et 70 au Zimbabwe. Et puis l'entraîneur du PSG a salué une réaction de champion. Éliminés de la Coupe d'Europe, les Parisiens l'ont emporté hier soir lors du Classico contre Marseille. Victoire 3-1.
Merci Marion Calais, à tout à l'heure 11h.
À tout à l'heure.
Europe 1, il est 10h01.
Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Soyez les bienvenus, chers amis, si vous nous rejoignez après la marée noire, ses conséquences et ses naufrages dans les mers du globe. Parlons politique et d'un sujet criant, la communication de la Macronie. On est en droit de s'interroger sur la posture du président Emmanuel Macron au ski samedi quand les Champs-Élysées étaient saccagés et sur celle de son ministre de l'Intérieur photographié alcoolisé embrassant une jeune femme en boîte de nuit il y a quelques jours. Ont-ils vraiment pris la mesure du problème et du contexte? Qui conseille ces politiques en matière de de communication. Et que disent ces images et ces séquences du rapport à la crise, précisément, au-delà de la polémique? Cela soulève plusieurs réflexions sur l'exemplarité des politiques. On vous donne la parole au Standard d'Europe 1. N'hésitez pas, avec nos invités que je vous présente dans un instant. Le Standard est ouvert, Julie.
C'est le 3921 et le hashtag Europe 1 pour les réseaux sociaux.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.